Puis, en ce 9 janvier, il y a plusieurs saints qui pourraient être intéressants, mais j'ai retenu, avec beaucoup de joie, Pauline Jaricot, une laïque du siècle dernier. Il y a si peu de laïcs qui sont canonisés, qui sont des saints fantastiques. Elle est vénérable, elle n'est pas canonisée encore. Je ne sais pas du tout pourquoi elle n'est pas canonisée. C'est des choses parfois qui sont mystérieuses. Il va y avoir quelque chose quelque part, je ne vois pas ce que ça peut être. Mais en ce jour, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, en ce jour, on pourrait parler d'Adrien de Canterbury, un évêque de Canterbury, à l'époque où l'Église était indivise, où il n'y avait qu'une seule Église. Nous étions unis à l'Église orientale, les orthodoxes, et à cette grande Église anglicane, qui ne se séparera de nous, malheureusement, que pour bien des siècles, 8 siècles plus tard, après Adrien de Canterbury. C'est aussi la fête d'Alix Leclerc, la fondatrice et chanoinesse de Notre-Dame au XVIIe siècle. Et puis, on peut fêter aussi le fameux janvier de Naples. Vous savez, ce sang qui bout toujours dans des fioles à Naples, et les gens disent, bah voyons, ça n'a pas de sens. Pourtant, je vous en ai déjà parlé et j'y reviendrai un jour, probablement l'an prochain. C'est aussi la fête de Julien et Basilis qui sont des époux, hein? Mari et femme, martyr, Antinoé vers 309. Il y a Philippe le métropolite, ça pourrait être intéressant, ça il était métropolite de Moscou et de toute la Russie, donc le grand chef, si on peut dire, de l'Église russe, cette immense Église orthodoxe si importante qui vient de retrouver sa liberté et qui est mort, lui, en 1568. Il faut souvent penser aux martyrs de cette noble Église russe. La souffrance effrayante à travers laquelle ils sont passés au cours de ce siècle, grâce à cette étrange philosophie d'inspiration plus ou moins évangélique qu'est le communisme, où on veut répartir les richesses et faire qu'il n'y ait plus de pauvres, mais où ce système qui part de loi ne fonctionne pas, il faut que ça parte du cœur. Il faut que ça parte de la conversion personnelle, il faut que ça parte de l'Évangile, quoi. Et c'est aussi la fête de cet étrange saint qui est Pierre de Sébaste. J'aime bien Pierre de Sébaste, qui était évêque en Arménie. Je vous lis simplement un petit passage d'un texte. Pierre de Sébaste était le 10e enfant de Saint Basile l'Ancien, son père était saint, et de Sainte Émilie, sa mère était sainte. Ses deux frères, Basile le Grand, ben c'est le fameux Saint Basile le Grand qui a été célébré il y a une semaine. Saint Grégoire de Nice était son autre frère, ce sont des grands évêques. Sainte Macrine, sa sœur aînée, je vous en ai déjà parlé, et c'est elle qui a éduqué ses frères, les saints docteurs. Macrine l'Ancienne aussi, la sainte Macrine l'Ancienne était la bonne grand-mère. Etc. C'est une famille de saints absolument phénoménale. Je vous parlerai de ça un autre jour. On peut pas tout faire en une heure, c'est trop court. Je vous parlerai donc de Pauline Jaricot, une femme illustre qui est née à Lyon en 1799, donc au moment de la Révolution et de la pacification des choses. Il y aura Napoléon, n'est-ce pas, et le directoire Napoléon, puis et les rois, la restauration des rois de France. Pauline Jaricot a vécu à travers tout ça. Et elle est morte le 9 janvier 1862, donc à 62 ans. Elle était très richement dotée. Sa famille, qui n'était pas nécessairement d'une grande famille, lui avait laissé beaucoup d'argent. Et elle s'est ruinée au service du monde ouvrier. Oui, du monde ouvrier. Et elle fut inscrite dès 1853. Elle avait 54 ans. Elle a été inscrite au bureau, évidemment, et de façon absolument étonnante, au bureau de bienfaisance, comme indigente totale. Elle n'avait plus un sou. Elle était dans la rue. Elle était même endettée. Vous verrez. Et pourtant, Pauline Jaricot était une femme célèbre, c'est pas une folle. C'était une femme supérieure, une femme extrêmement brillante et intelligente. À qui, d'ailleurs, le cardinal Newman, vous savez, ce cardinal John Henry Newman, dont je vous ai parlé le 11 août longuement, mais ce cardinal lui demandait conseil. Même que le pape Grégoire XVI, qui était un pape très intéressant, allait se déplacer du Vatican, allait lui rendre visite quand elle se trouvait à Rome. Qu'est-ce qu'il faisait à Rome? Vous verrez tout à l'heure. Le curé d'Ars lui-même, à cette époque, dans la première moitié du 19e siècle, bien, il la donnait publiquement en exemple, Pauline Jaricot. Des évêques la saluaient du titre de mère des missions. Pourquoi mère des missions? Vous verrez, elle a fondé cette œuvre qui m'est extrêmement chère, la propagation de la foi. Une anecdote en passant. Quand ma mère est morte il y a 14 ans, ou plutôt 15 ans, ou 13 ans plutôt, en octobre 82, j'avais fait paraître dans le journal que ma mère était entrée dans la lumière de Dieu, ce qui avait étonné des gens. Mais ce qui avait étonné davantage les gens, c'est que je demandais à la fin qu'on offre des dons à la propagation de la foi. C'était une œuvre qui lui avait été chère toute sa vie. Toute sa vie. Très peu de dons ont surgi, très peu. Oh, 2-3 personnes. On ne savait pas connaître ce que ça voulait dire. Et on n'en a pas tenu compte. Et c'est bien dommage. Vous verrez que c'est grand, la propagation de la foi. Ça existe à Montréal, la propagation de la foi. Il y a le dimanche, la propagation de la foi, où les gens donnent à peine quelques sous pour soutenir nos missionnaires et nos dispensaires et nos orphelinats, nos collèges, nos écoles, nos universités à travers le monde, dans les pays où il n'y a presque pas d'argent. C'est triste parfois de voir ça. En tous les cas, on la connaît comme la fondatrice de la propagation de la foi, mais elle fut bien plus que cela. Pauline Jaricot a vécu dans l'étroit espace à Lyon, qui est défini par la paroisse Saint-Nizier, où elle allait prier, où il lui est arrivé des choses merveilleuses. Paroisse Saint-Polycarpe, d'une part aussi, puis la fameuse colline de Fourvière, où il y a cette basilique dédiée à Notre-Dame, qui est pas très belle entre nous. C'était construit au siècle dernier. C'est plutôt laid, à mon avis. Peut-être que je me trompe et qu'elle est devenue belle avec le retour des choses et l'amour qu'on peut avoir des fois pour certains styles que l'on considérait à un moment donné comme laid. Mais je crois qu'elle est toujours plutôt laide, la pauvre basilique de Fourvière. Et à côté, bien, il y a les jésuites, là. Il y a des jésuites. C'est de là qu'ils sont partis, des hommes extraordinaires comme Hans Urs von Balthasar, le père de Lubac et quantité d'autres grands jésuites de ce siècle, des théologiens fantastiques. Sa mère, Jeanne Latier, était la fille d'un quart d'heure de soie du quartier Saint-Paul. C'est de là que vient, mon Dieu, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est un héritier de ces grandes familles des soieries de Lyon. Lui aussi s'est fait pauvre, l'abbé Pierre vit toujours. Son dernier livre est à lire, Allez courir acheter le dernier livre de l'abbé Pierre, paru il y a quelques mois à peine. Je vous en ai déjà parlé. Un des plus beaux livres qui soit. Et son père, Pauline Jaricot, était le 13e enfant. Il n'y a pas d'avortement dans ce temps-là. Hein? 13e enfant de cultivateur d'un petit village, de soucieux en Jarret. Il était venu travailler à Lyon, puis il était devenu plieur de soie. Alors, ils ont formé un couple d'artisans, tous les deux. Ils avaient une foi ferme, une foi vivante. Et ça les menait à la messe quotidienne. Imaginez, la messe quotidienne, ils avaient de nombreux enfants pourtant, ils travaillaient. Messe quotidienne, ça voulait dire, dans ce temps-là, aller à la messe, quoi, à 5 heures le matin. Ou 6 heures, il y avait des messes très très tôt. Je me souviens, dans mon enfance, je servais la messe. Bien, on servait la messe à 6h30, et 7h, et 7h30. On servait souvent 3 messes. On avait 8 ans. On n'en mourait pas. Leur honnêteté à ces gens-là, à ses parents, monsieur et madame Jaricot, dans un milieu de travail où l'honnêteté est vraiment recherchée, Mais ça leur a attiré des sortes de récompenses, ça leur a procuré l'aisance même de la part de leur patron, et même une certaine richesse finalement. Et Pauline, la dernière de leurs 7 enfants, a passé plus de la moitié de sa vie en famille aux côtés de son père, donc plus 30 ans, puisqu'elle est morte à 62 ans. Son père l'appelait « mon alouette ». Elle aimait chanter. On dirait qu'elle avait des ailes. Et au cours de sa vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle sera plumée. Elle te plumerait. Et oui, elle a été plumée complètement. Elle disait d'ailleurs d'elle-même, quand elle se décrit jeune, elle avait toute une personnalité, elle dit « je suis née avec une imagination vive, un esprit superficiel, un caractère violent et paresseux. Et je me donnais entièrement à une chose, faute de garder un juste milieu en rien. » Mais elle ajoute, « mais heureusement, Dieu m'avait donné un cœur droit et facile à enflammer pour la piété. » Et alors, au sortir de cette enfance qui était heureuse et choyée, bien, Pauline a failli se tromper de chemin. Elle raconte, « on me disait que j'étais jolie. Il fallait être morte ou bien malade pour ne pas ressentir toutes ces flatteries, toutes ces paroles doucereuses de la part des jeunes gens qui m'entouraient et qui couraient autour de moi. On parle même de fiançailles à un moment donné, et Pauline s'y prépare sans trop y réfléchir. Mais elle tombe d'un tabouret, et sa chute malencontreuse a des répercussions sur son système nerveux au point que les médecins ont craint pour sa raison et pour sa vie. C'est curieux, hein? Il y a des gens qui se tuent en tombant du trottoir. Elle a failli mourir en tombant simplement d'un tabouret. Elle est toute jeune, elle n'a que 16 ans. Sa mère, bouleversée, archi-inquiète, finit par en mourir de douleur, mais Pauline guérit. Peut-être justement grâce au sacrifice de sa mère, aux prières de sa mère avant de mourir. Alors le deuil passé, la santé plus éclatante que jamais l'envahit et elle reprend sa vie mondaine. Mais dans son âme, elle est déchirée. Et à moins de 17 ans, écoutez bien ça, les prêtres qui m'écoutaient, à moins de 17 ans, un sermon entendu dans l'église Saint-Nizier, sa paroisse, la remet dans sa voie véritable, un sermon, tout simplement. Et au bout d'une année, à Noël, elle monte la colline de Fourvière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où domine ce sanctuaire marial célèbre. Et Pauline y fait le vœu de rester célibataire, chaste de corps et de cœur. J'en entends qui disent, voyons donc, pourquoi? Pour mieux se donner aux autres. Pour mieux servir. Pour se consacrer à l'amour total des autres. Or, elle est riche. Et elle décide de se vêtir le plus simplement possible, comme les pauvres, les prolétaires de son temps. Et Pauline s'explique plus tard. Elle raconte, « Je pris le parti extrême, car il m'était si terrible de briser avec mes habitudes de luxe et de richesse, que les premiers mois de ma conversion, je souffrais cruellement quand je me montrais en public. J'évitais de regarder les costumes de mes amis, car ces choses avaient encore pour moi un si grand attrait que jamais je n'aurais pu guérir cette sotte vanité si je m'étais laissé aller. » Ah, la vanité, hein? Une manière aussi radicale a eu l'effet le plus décisif, et Pauline s'est sentie libérée, renouvelée. Et elle dit à ce moment-là quelque chose, elle raconte quelque chose d'extraordinaire, c'est de toute beauté. « Je cherchais partout mon Dieu, dans les fleurs, dans les étoiles, dans la lune. Ça c'est superbe. Je baisais parfois avec transport les feuilles des arbres comme si je les avais vues sortir des mains du Créateur. » C'est beau, hein? Alors Pauline se met à visiter les pauvres, mais à sa façon. Alors elle a choisi de s'habiller comme eux. Elle trouve la note juste et ne tolère pas que le monde soit fait sans respect. Car elle dit, « Ils nous font l'honneur de la recevoir. » C'est vrai, hein? que les pauvres nous font l'honneur de recevoir notre aumône. Et sa famille habitait à Lyon la rue Tupin qui débouche sur la rue Mercière, c'est-à-dire où l'on côtoyait le meilleur et le pire, et la vision quotidienne des prostituées qui étaient filles de son âge et que la misère avait amené là, bien, la provoque chez Pauline, qui sort à peine de l'adolescence, on peut dire, ça lui provoque chez lui, écrit-elle, une vie d'agitation continuelle pour leur procurer des asiles. Elle veut les mettre à l'abri. Et Pauline s'était tournée vers son beau-frère, qui habitait Saint-Vallier, tout près de Lyon, quartier Lyon, pour essayer d'encaser quelques-unes. Celle-ci trouvait une vie de labeur, de concorde, d'amitié, de très haut salaire, trois fois supérieur à ceux des ouvriers de Lyon, mais un cadre de vie strict. Ça dépaysait un petit peu trop, ces pauvres protégés de Pauline. Et alors, il a fallu chercher autre chose, et entre-temps, mais Pauline a recruté parmi les ouvrières de son quartier des filles, de son âge, qui partagent son idéal, qui se jettent avec elle dans une vie de piété, d'action dévorante. Elle entraîne les autres, elle est intelligente, elle est brillante, elle a du caractère. C'est pas une nounoune, là, c'est pas une femme qui fait du bruit avec son chapelet sur les bancs, là. C'est pas ce genre-là, là. Elle en trouve et nombreuses, entièrement dévouées, qui sont toujours prêtes à se porter partout où le Seigneur avait besoin d'elles. Alors Pauline les associe. Elle leur donne un nom qui va faire plaisir aux sœurs de Marie Réparatrice à Montréal, sur l'avenue du Mont-Royal à Outremont. Pauline les associe sous le nom de Réparatrice. Elle a 19 ans. Et Pauline et son frère Phileas s'aimaient beaucoup. Un an les séparait. Et là va arriver quelque chose d'assez extraordinaire. Durant sa courte vie, ce Phileas, quel nom terrible, eut un grand ascendant sur sa sœur. Enfant, il rêvait de partir pour la Chine, comme missionnaire avec elle. Et sa sœur voulait le suivre. Et le petit garçon de lui rétorquer, « Ma pauvrette, tu peux pas, mais tu prendras un râteau, tu ramasseras des tas d'or et tu me les enverras. » C'est une espèce de vision prophétique qu'il a, c'est assez extraordinaire. Et Phileas, devenu séminariste, il part à Paris étudier au séminaire de Saint-Sulpice. Il apprend par un ami, le séminariste Rondeau, que les missions étrangères, qui sont sur rue du Bac, là, tout près de la fameuse chapelle de la médaille miraculeuse, Catherine Labouré, Sainte-Catherine Labouré, derrière le magasin du Bon Marché, là. J'espère que vous êtes allés visiter tout ça. Ben alors, il apprend que les missions étrangères se trouvent dans une situation financière critique. Alors, ils se tournent vers leurs amis communs de la congrégation de Lyon, présidée par un dénommé Benoît Coste, un agent de change. Mais ils font la sourde oreille. Alors, le séminariste Rondeau demande à Phileas Jéricho, le frère de notre Pauline Jéricho, de faire agir sa sœur Pauline. Et la jeune fille s'enflamme, et dès le printemps de l'année 1818, quoi, elle n'a pas 20 ans, fait appel aux jeunes ouvrières de Saint-Vallier. Une fois par semaine, l'une d'elles passe et recueille un sou seulement, mais ça va faire des montagnes. À Lyon, Pauline s'appuie sur ses réparatrices, là, ces jeunes filles qui l'entourent, pour organiser quelque chose. Et ainsi, il y a toutes sortes d'initiatives qui s'additionnent et se complètent. Tout cela est encore très informe. Pour beaucoup de gens, c'est un objet de dérision, comme dit Pauline elle-même. Et c'est ainsi qu'intervient son génie créateur. On connaît son récit, n'est-ce pas? Il est célèbre. Le plan réussit au-delà de toute espérance. Les dizaines s'irradient, les centaines se forment. Dans les premiers mois de 1820, elle a 20 ans, Pauline Jéricho dirige seule cette organisation, dont les membres s'élèvent en peu de temps, au nombre de 1000, tandis que les offrandes recueillies montent de semaine en semaine. 78 francs d'abord, c'est pas beaucoup. Un peu plus 100 dollars, quoi. Ou si c'était 5 francs au dollar, ben ça fait pas beaucoup. Ça fait quoi? 20, même pas 20 dollars. Puis 300 francs, puis 1800 francs. Puis elle s'associe un commis en soierie, Victor Giraudon, qui deviendra membre de la congrégation et jouera un rôle aussi décisif que discret. Or, dans le même temps, Monseigneur Dubourg, un évêque français d'Amérique, Vous savez qu'il y avait beaucoup d'évêques français aux États-Unis. Il dépêchait à Lyon un émissaire pour recueillir des fonds. Alors Benoît Coste, dont je vous ai parlé, résume sa position comme ça. Pour une œuvre générale, j'en suis. Pour une œuvre partielle, je ne m'en mêle pas. Ce propos, dont il ne mesurait pas la portée, avait pour but immédiat la synthèse entre les demandes pour l'Asie et les demandes pour l'Amérique, car il fallait aider les missions partout à travers la Terre. Et là, le 3 mai 1822, elle a 21 ans, ou 22 ans, et Benoît Coste, plusieurs jeunes notables de Lyon, tous membres de la congrégation, se retrouvent autour de l'émissaire de Monseigneur Dubourg, et chacun apporte son point de vue. Victor Giraudon, la méthode d'organisation inventée par Pauline, dont le nom n'est pas prononcé pourtant. Là, c'est le martyre de Pauline qui commence. C'est la date de fondation officielle de la propagation de la foi, et en réalité, comme l'un d'entre eux, Didier Petit, l'a écrit plus tard, nous n'avons fait que développer et organiser une idée première qui n'est pas de nous, qui est en fait de Pauline Jaricot. Et alors, elle est mise en marge. Et Pauline se cantonne au rôle de chef de centaine, comme elle dit. Comme elle le dit joliment, d'ailleurs, elle a été la première allumette pour allumer le feu, c'est tout. Elle se trouve alors chez sa sœur et son beau-frère, les Chartrons, à Saint-Vallier. Et d'après une tradition familiale, c'est là que Pauline a rédigé un traité sur l'Eucharistie et le sacerdoce. Écoutez bien ça. Elle rédige un traité sur l'Eucharistie et le sacerdoce qui est admirable et qui jaillit de sa plume, la plume d'une jeune fille de 21 ans seulement, et que nulle étude théologique n'avait formée, elle n'avait pas fait de ces études-là. C'était simplement ce que le chrétien le plus ordinaire pouvait savoir, qu'elle a mis là. C'est très, très beau. Nous avons insisté, d'ailleurs, sur la création de la propagation de la foi parce que c'est son principal titre de gloire et qui lui a été contesté, mais à peine l'œuvre a-t-elle été entre bonnes mains que le génie de Pauline s'est cristallisé sur des plans les plus gigantesques, dans une réalisation d'une simplicité extrême. Et ça, ça va plaire aux gens qui récitent le chapelet le soir avec Radio-Ville-Marie. Ce sera le rosaire vivant. Alors, qu'est-ce que c'est? À 27 ans, Pauline crée le rosaire vivant, qui compte jusqu'à 3 millions d'adhérents. Elle vit dans un milieu familial qui l'entoure de piété de foi, mais également dans un monde de bourgeoisie libérale, qui est héritière du 18e siècle, et foncièrement hostile, finalement, à la religion, comme un peu notre milieu bourgeois ici. Pauline en souffre intensément, et cette pensée ne la quitte pas. Il ne lui vient pas l'idée de s'attarder à des travaux d'approche. Elle veut faire entrer ses contemporains directement dans une vie de prière, et en fait, Pauline a l'intuition d'une vague de fond en train de soulever la première moitié du 19e siècle, dans un essor chrétien absolument incomparable qui va se manifester sur tous les plans. Et d'ailleurs, le touriste qui parcourt les campagnes de France se rend peut-être compte que la moitié des clochers qu'il aperçoit ont été bâtis durant cette période. Autre exemple, le pullulement des congrégations féminines va dépasser à cette seule époque tous les siècles réunis. C'est incroyable, toutes les congrégations qui ont été fondées en France au 19e siècle. Et Pauline cherche durant des années et brusquement, elle trouve... Depuis longtemps, la belle dévotion du rosaire était laissée aux dévotes de profession, dit-elle, encore à condition qu'elles fussent vieilles ou n'eussent rien à faire, ce qui était un préjugé très faux, mais malheureusement existant partout. Et elle termine en disant « L'important et le plus difficile était de faire agréer le rosaire à la masse. » Et le rosaire est formé de 3 chapelets, rappelons-le, et chacun comporte 5 dizaines récitées avec l'évocation d'un mystère chrétien. Et Pauline a l'ingéniosité de répartir les 15 mystères entre autant d'associés, dont la 15aine comporte du bon, du médiocre et quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté. Alors 15 charbons, un seul est bien allumé, 3 ou 4 le sont admis, et les autres pas. Rapprochez-les et ce sera un brasier, dit-elle, et c'est cette interdépendance entre associés que Pauline va faire fructifier par le monde entier jusqu'au Québec. Je suis heureux de vous parler de Pauline Jaricot, qui vit tout à fait la fin du psaume de la messe de dimanche. Hein. « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. » Vous allez voir qu'elle s'occupe des pauvres. Là, elle se lance dans la pratique du rosaire. Alors, Pauline ajoute une seconde interdépendance entre associés à l'histoire des groupes. Et ça va provoquer tout un élan fantastique à travers le monde. Chaque associé s'engage à s'adjoindre 5 autres membres qui, à leur tour, en amèneront 5 autres afin de multiplier les adhérents. Pauline peut écrire dès 1831, donc elle a une trentaine d'années, 31 ans. Les quinzaines continuent à se multiplier avec une incroyable rapidité en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre et dans plusieurs contrées de l'Amérique. Ce rosaire a planté ses racines de vie jusque dans les Indes et surtout au Canada, à Montréal, à Québec, partout. Nous continuons à faciliter les moyens de l'établir en Afrique. Après la mort de la fondatrice en 1862, le rosaire vivant groupe plus de 150 000 quinzaines, ce qui fait un total de 2 250 000 inscrits en France seulement. Dans le monde entier, le chiffre en est inconnu. Et pendant 15 ans, Pauline va enflammer ses millions d'adhérents par ses circulaires pratiques, ardentes et profondes. On pourrait croire, puisqu'elle répand le chapelet, qu'elle est un peu minus abens, quoi, hein, on méprise, c'est facile de mépriser. Non, c'est une femme vraiment intelligente. Et un aumônier écrit justement ce sujet, au sujet des circulaires, « Elles sont, dans nos réunions, ce qu'étaient pour les premiers fidèles les épîtres de saint Paul. » C'est pas peu dire. Vous direz qu'il exagérait peut-être ce pauvre prêtre et on n'a pas des données pour savoir et vérifier. D'accord. Je vous laisse dans vos doutes. Elle élargit les horizons. Elle s'écrit haut les cœurs. Ne les amusons plus à de petits intérêts personnels, les fidèles. N'usons plus les larmes pour des riens. Vous voyez, les bonnes personnes pieuses qui ont la larme à l'œil, c'est pas ça qu'il faut. Elle dit « Embrassons l'univers dans les vœux que nous formons. Jésus est mort pour tous les hommes. Pourquoi affaiblir nos cœurs par des désirs plus restreints ?» Elle se veut tout donner. Alors dès lors, elle parle pas d'ailleurs comme une... Je m'excuse du terme, mais elle est poquetaine. Bon, je retire le mot. Bon, dès lors... À toutes ces interdépendances s'en ajoute une autre toute naturelle. Pauline le constate elle-même. La masse des associés de la propagation de la foi, surtout en France et en Belgique, est formée en grande partie des associés du rosaire vivant. Ils avaient rejeté Pauline Jaricot comme fondatrice. Alors, entre-temps, Pauline s'était installée sur les flancs de la colline de Fourvière, dans une maison qu'elle avait baptisée Lorette, comme la maison de Lorette, la prétendue maison qu'habitait la Sainte Famille. Il y a une grande dévotion à la maison de Lorette. C'est peut-être vrai, elle aurait été transportée par des anges. Bon, on n'est pas obligé de croire à tout ça. Et ça existerait en Italie. Bon, elle y avait groupé en communauté plusieurs compagnes, mais toujours dans le cadre d'une vie laïque, car sa vocation était de rester dans le monde. C'est une sainte laïque. Hein. Elle avait écrit jadis à son frère, le fameux Phileas, le séminariste. « Mon cher Phileas, il est bon que je vous prévienne d'une chose. C'est que ma vocation n'est point de me donner tellement à une œuvre que j'oublie tout le reste pour m'en occuper. Non, je ne prétends point m'imposer l'obligation de ne plus aller là où est le plus grand besoin, une plus grande nécessité. » Ou une plus grande consolation pour la Sainte Église. Elle se veut au cœur de l'Église, là où elle est la plus nécessaire. Et Pauline a 30 ans, grande, vive, au regard direct et bienveillant, à la voix harmonieuse. On disait même de sa voix qu'elle était enchanteresse. Elle cache sous un effort intense d'humilité une personnalité puissante. Elle a un génie créateur. Elle a, comme on dit, c'est les termes de l'époque, un naturel si vivant de sa propre vie. Tous ses interlocuteurs en sont vite persuadés, d'ailleurs. Je vous ai dit au début que les cardinaux, les évêques, les grands de ce monde, et aussi le premier venu, étaient persuadés de toutes ses qualités. Dès qu'elle parle, on l'écoute. Timide de prime abord, cette espèce de douce discrétion, il en émane une sorte de simplicité presque majestueuse qui donne envie d'être d'accord avec elle. Oh, sa santé n'est pas bonne. Et par sa faute, car elle ne se ménage jamais, Pauline Jaricot passe des nuits entières à prier. Puis elle va à ses incessantes occupations le lendemain, comme si de rien n'était. À 35 ans, elle est malade à mourir. Elle mourra qu'à 62 ans. Et à l'insu des médecins, elle se fait conduire à Rome. Et là, elle a l'insigne honneur, imaginez, de recevoir la visite du pape Grégoire XVI. C'est pas des blagues. Pauline compte sur sainte Philomène pour être guérie. Et elle est guérie. Oui, sainte Philomène. Cette sainte préférée du curé d'Ars qui était rayée du calendrier. Parce qu'on n'a pas de preuves. Pauline promet donc le culte de sainte Philomène, conjointement avec le curé d'Ars et bien d'autres. Alors, faut croire que si cette sainte n'a jamais existé, comme on nous l'enseigne aujourd'hui, mais il doit en avoir une autre qui la remplace, ou une autre sainte Philomène, puisque se passe des choses quand même. Mais tout ça, c'est pas grave. Faut pas se faire des montagnes avec ça. Hein? Pauline est célèbre. Elle n'a que des amis. Mais elle va peu à peu se lancer dans une aventure financière vraiment atroce. Ça va lier son sort aux plus démunis jusqu'à une agonie, au-delà de la mort. Car à peine sortie de l'adolescence, Pauline avait perçu la grande détresse des ouvriers et des ouvrières dans la paroisse Saint-Nizier tout près. Tandis qu'il y avait là, dans la même paroisse, cette bourgeoisie qui prétendait être plus ou moins aveugle dans leur belle maison et qui menait bon train de vie. Bien plus, là où les meilleurs de son entourage bourgeois se contentaient d'exercer la bienfaisance, Pauline s'est efforcée, elle, comme elle le dit, d'approfondir les maux qui dévorent la société. Elle voulait aller aux sources. Comme elle dit, à mesure que l'industrie s'exerce à remplacer les bras de l'homme par les machines, et c'est le problème, on l'a encore aujourd'hui, les ordinateurs qui remplacent tellement de gens, c'est rempli de chômeurs, quoi faire? Et Pauline est témoin, il y a des insurrections en 1831, 1834, des insurrections terribles, c'était des bagarres à Lyon. Alors elle écrit, « Je cherche devant Dieu le moyen de remédier au découragement, à l'immoralité et à l'exaspération qui se manifestent de plus en plus dans les masses. Alors en un mot, dit-elle, je voudrais qu'on rende l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme, rendre Dieu à l'homme. Car, dit-elle, Dieu est le bonheur et la fin. C'est vrai que Dieu est le bonheur et il est la fin de tout. Quand on voit Mitterrand mourir et douter, se dit qu'il n'a pas peur de la mort, mais qui se demande ce qui arrive de l'autre côté. Mais je lui dirai, mais vous serez serré dans les bras de Dieu contre son cœur brûlant d'amour. Vous direz, ben voyons, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de cœur. C'est sûr, c'est un esprit. Mais c'est encore plus beau que des bras et un cœur. C'est encore plus grand et plus merveilleux et plus étourdissant. C'est ça, le ciel. C'est la joie inaltérable et infinie. Notre chère Pauline Jaricot dit à un moment donné que la plaie sociale dont souffre la France étant l'agglomération des ouvriers, je voudrais faire de cette agglomération même un moyen de salut. Puis elle écrit dans le style de son temps, « J'entrevis le moyen de former un établissement où des ouvriers vertueux pourraient en famille jouir des avantages d'un travail réglé avec prudence et rétribué selon la justice. Là, me disais-je, le père de famille verra ses enfants s'élever au foyer paternel sans être privé pour cela de l'éducation convenable à leur avenir. Un beau rêve s'était réalisé un peu ici et là par de bons patrons chrétiens. Il en manque de bons patrons chrétiens. À quelques 200 mètres en contrebas de sa maison de Lorette, sur les bords de la Saône, Proudhon, le fameux Proudhon, rédigera sa philosophie de la misère. Vous savez, Pierre-Joseph Proudhon, théoricien socialiste, là, qui est mort en 1865. Et au même moment aussi, avec Engels, eh bien, le jeune Karl Marx va préparer le manifeste du Parti communiste en 1847. Et oui, Frédéric Engels, celui qui était né en 1820, c'était encore un autre théoricien socialiste, là. Il a rédigé d'ailleurs aussi avec Karl Marx, le savez-vous, un ouvrage qui s'appelle « La Sainte Famille », 2 ans avant le manifeste du Parti communiste. C'était « La Sainte Famille ». Et alors, en 1844, Pauline croit avoir trouvé la base de départ. Cette boule de neige, donnant à un premier groupe d'ouvriers les moyens de se régénérer. Et de régénérer de proche en proche l'ensemble du monde ouvrier, comme les dizaines de la propagation de la foi ou les quinzaines du rosaire vivant. Alors elle trouve toujours ce truc, une espèce d'esprit pyramidal. Hein. Aujourd'hui, au 20e siècle, elle se serait lancée peut-être dans les ventes pyramidales. Alors bien plus, là où les meilleurs de son entourage se contentaient de toutes sortes de choses, eh bien, elle se lance dans une affaire... L'affaire de l'usine de Rustrel, près d'Avignon, près d'Apt, dans le Vaucluse. Pauline était en droit de s'attendre à une réussite, quoi. C'était également l'opinion de son entourage, même celle du roi Frédéric Guillaume de Prusse, lorsque plus tard, au moment de la ruine de cette entreprise, il fera parvenir une offrande, accompagnée d'une lettre admirative écrite de sa main. Pauline est rassurée. Elle tombe dans les mains de 2 financiers qui sont des escrocs, qui font semblant d'être très pieux, qui jouent la religion, comme on dit, pour mieux la gruger. Combien de gens comme ça qui nous empruntent de l'argent, le chapelet à la main, qui nous parlent de toutes sortes de choses bien pieuses et qui nous empruntent des sommes faramineuses qui ne nous remettent jamais. Ah, mon Dieu, que j'en ai donc connu. Mais elle était trop grande pour être écrasée par ce premier coup. Et après une cascade de procès où les escrocs ont l'habileté de retourner la situation contre elle, bien, Pauline se redresse. Elle gagne et franchit l'obstacle. Son crédit est si grand, sa réputation si solide, sa sainteté si évidente, que tout le monde vole à son secours, et là, le pape écrit au conseil de la propagation de la foi de l'aider, même qu'un prince italien lui annonce un don considérable. Et le fameux, l'illustre cardinal Newman déclare que l'entreprise de Pauline Jéricho mérite l'aide de tous les catholiques de la terre. Il est l'archevêque de Dublin, lui. Il dit au nom de l'Irlande, « Nos catholiques persécutés mendieront. » Persécutés? Oui, oui, les Irlandais ont été persécutés par les Anglais pendant 7 siècles. Ils l'étaient encore au temps de Newman. Ils ne se sont libérés qu'au début de ce siècle, vers 1920, et encore dans le Nord, ils sont encore persécutés. On dit c'est des guerres de religion. Oui, oui, allez-y voir. Allez-y voir comment les catholiques sont traités dans le Nord. Quand ils disent qu'ils sont étudiés à l'école Saint-Patrick, ben, ils n'ont pas de job. Mais s'ils ont étudié à l'école, oh mon Dieu, Churchill, là, ils peuvent avoir un job. Et ainsi de suite, du roi de Prusse jusqu'à un évêque de Mandchourie qui prélève sur son maigre avoir de missionnaires, ben, ils envoient eux aussi des petites contributions. Et alors, pourtant, c'est l'échec et Pauline, qui en est vie sédentaire, se met à parcourir la France pour tendre la main. Là, elle m'en dit, au fur et à mesure que Pauline commence à recueillir le fruit de ses démarches et de son crédit, et là, il y a un travail de sape, d'abord silencieux, puis a découvert qu'il détruit peu à peu tout ce qu'elle entreprend. C'est la seconde phase de sa vie. Elle est atroce. Et après un savoir-faire merveilleux, bien, Pauline essaie de remédier à la situation. Là, le cardinal vit court. C'est lui qui va apporter un appui constant. Bien, après en avoir parlé au pape, il forme une commission pour que les fameux messieurs de Lyon interviennent pour enrayer la collecte partout où ils peuvent. Alors voici la troisième phase. Elle va durer 10 ans. C'est le pire de toutes. On commence à murmurer que mademoiselle Pauline Jaricot est une hypocrite qui s'enrichit par ses quêtes et qu'en tout cas c'est inutile de lui donner de l'argent parce qu'elle va le gaspiller. La pauvre Pauline Jaricot pourrait être aidée par sa famille qui est riche et puissante, mais ses neveux et nièces qui sont gênés s'écartent. Et l'une d'elles, la plus proche, lui fait même un procès. Et toutefois, il consentirait à l'aider personnellement, mais Pauline est inflexible. « Non, non, dit-elle, rien pour Pauline, tout pour les créanciers, les petits surtout. » Et en 1852, bien, Pauline imagine de faire traverser sa propriété de Lorette par un raccourci qui va amener à la chapelle pèlerinage de Fourvière. Un petit droit de péage lui fait espérer un moyen nouveau de remboursement de ses créanciers, et en effet, tout va bien. Alors, c'est la solution rapide de ses problèmes. Sa joie éclate. Et juste à ce moment, surgit une commission de Fourvière qui crée un chemin rival. Puis un nouveau procès. Un ecclésiastique, un prêtre, un mot épouvantable. C'est une fourmi, cette Pauline Jaricot, il faut l'écraser. Et en 1853, elle a 54 ans, Pauline Jaricot n'a plus de pain. Elle s'en va au bureau de bienfaisance de sa paroisse. On l'inscrit parmi les indigents. Elle a encore 10 ans de vie. Les amitiés, les inimitiés s'entrecroisent. On lui paie le voyage de Rome et le pape tente un dernier effort. Il est juste, dit-il, que la propagation de la foi paie vos dettes, vu tout le bien que vous avez fait pour la Sainte Église. C'est Pie IX qui parle. Et il ajoute, « J'ai fait écrire au cardinal de Lyon afin qu'il donne des ordres à cet effet. » Mais c'est en vain. Le fameux conseil de Lyon de la propagation de la foi refuse. Et c'est à ce moment que le curé d'Ars déclare à la foule des pèlerins à qui il parle de la souffrance, « Ah, mes enfants, je connais quelqu'un qui sait bien porter les croix. C'est mademoiselle Jaricot. » Et telle est Pauline. Elle écrit « J'ai aimé Jésus-Christ plus que tout sur la terre. » Et pour l'amour de lui, j'ai aimé plus que moi-même tous ceux qui étaient dans le travail ou la douleur. Je le répète parce que je suis sûr que c'est une parole qui habite le cœur de bien des gens qui m'écoutent, qui ont le souci des pauvres. J'ai aimé Jésus-Christ plus que tout sur la terre. Et pour l'amour de lui, j'ai aimé plus que moi-même tous ceux qui étaient dans le travail ou la douleur. Alors, cette femme a supporté à un si haut degré les qualités mystiques et pratiques de sa cité natale. Est désormais une pauvresse marquée d'une tare, convaincue que le chagrin d'avoir des dettes et d'occasionner des pertes aux autres devait être au-dessus de toute douleur. Et cette douleur l'accompagnera au-delà de la mort parmi les souffrances sans nom. Cardinal Vicourt va écrire au pire moment, la position de cette vraie fille de l'Église est un problème que personne ne peut résoudre. Il y a dans tout ce qui s'y rattache quelque chose de si extraordinaire qu'on ne saurait douter que de si grandes épreuves ne viennent d'une prédestination toute spéciale. Et 6 ans avant sa mort, Pauline avait rédigé une sorte de testament et en voici les extraits, c'est très beau. Hein? « Mon seul trésor est la croix. La part qui m'est échue est excellente. » Et mon héritage m'est très précieux. En m'abandonnant à vous, Seigneur, je souscris à mon véritable bonheur. Je prends possession de mon seul vrai bien. Que m'importe donc, ô volonté tout aimée et tout aimable de mon Dieu, que vous m'ôtiez les biens terrestres, la réputation, l'honneur, la santé, la vie, que vous me fassiez descendre par l'humiliation jusque dans le puits de l'abîme le plus profond. Que m'importe que je rencontre dans ce puits non l'eau mais la boue, et que j'y sois plongé jusqu'au-dessus de la tête. si dans cet abîme je puis trouver le feu caché de votre céleste amour. Et après cette trouvaille, être assez heureuse pour être retirée en haut par cette même volonté. J'avoue que j'ai naturellement peur, que je répugne beaucoup à la souffrance. J'accepte votre calice. Je m'en reconnais tout à fait indigne. Mais c'est encore de vous que j'attends le secours, la transformation, l'union et la consommation du sacrifice pour votre plus grande gloire et le salut de mes frères. À vous, je recommande ceux envers qui je pourrai mourir insolvable, et je vous demande que, vous ayant sacrifié mon sang et ma vie, vos amis paient mes dettes après ma mort. Et lorsqu'on dépouille l'immense courrier de Pauline Jaricot et les divers éléments de son colossal dossier, on ne saurait s'opposer. Si Pauline devait s'appeler un jour Sainte Pauline Jaricot. Elle est donc morte à Lyon, le 9 janvier 1862. Elle a été déclarée vénérable le 25 février 1965 par Jean XXIII. Vous vous intéressez peut-être à la propagation de la foi, comme moi je m'y intéresse. Je vous rappelle l'adresse de la propagation de la foi à Montréal. 175 Est, rue Sherbrooke. Bon, je n'ai pas le code postal. C'est dans l'annuaire de Montréal, à la fin de l'annuaire de Montréal. 175 Est, rue Sherbrooke. De toute façon, le numéro de téléphone à Montréal est le 845-1342. 845-1342 pour la propagation de la foi. Un jour, le curé de ma paroisse, l'abbé Pierre Léger, dans la desserte Saint-François-Xavier de la cathédrale de Montréal, où on célébrait la messe dans la chapelle du Collège de Montréal, m'a demandé de prendre la parole le dimanche de la propagation de la foi pour demander des dons aux laïcs. Comme je suis laïque, eh bien, je pouvais le faire plus facilement que lui, peut-être. Et j'ai dit que si on donnait 2 $ à la sortie, ça faisait pour l'année 4 cents par semaine pour aider des hommes, des femmes qui donnent toute leur vie dans les pays de mission, qui sont souvent nos cousins, nos oncles, nos grandes-tantes. 4 cents par semaine si on donne 2 $. J'ai dit, si vous donnez 50 $, ça fait 1 $ par semaine. Ça devient un peu raisonnable, mais 1 $, c'est même pas le prix de la presse du samedi que vous avez acheté. Et alors, est-ce qu'il faudrait pas donner 100 $ pour au moins donner 2 $ par semaine? Et ceux qui ont vraiment de l'argent, pourquoi n'en donnent-ils pas davantage? J'ai eu la chance d'aller dans les pays de mission et de voir ce que c'est que cette propagation de la foi, les gens qui propagent la foi. Oh, c'est pas tout de propager la foi. La foi sans les œuvres est vide. Quand la foi est répandue, la foi jaillit en charité, en espérance, si elle est bien guidée. Et c'est là le secret. Il s'agit d'avoir une foi qui va vers les œuvres. Et l'amour du prochain, Jésus nous l'a enseigné. Il nous a dit bien des fois, vous êtes tous frères. Vous avez un seul père. Celui qui reçoit un enfant à mon nom me reçoit. Celui qui donne, ne fût-ce qu'un verre d'eau à mon nom, aura sa récompense. Il dit aussi, quand vous préparez un repas, n'invitez pas les riches, mais invitez les pauvres, les mendiants, les aveugles et les boiteux. Jésus dit aussi, vous avez reçu gratis, alors donnez gratis. Combien de choses magnifiques, dit Jésus. Ne me condamnez pas, pardonnez. La mesure que vous ferez, on vous la fera. Si on vous frappe sur la joue droite, tendez la gauche. C'est comme ça qu'on aime le prochain. Et si on veut plaider contre vous pour prendre votre robe, votre manteau, cédez encore davantage. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. prier pour vos ennemis. Donnez à quiconque vous demande. Et en somme, notre Pauline Jaricot a mis en pratique ces innombrables paroles de Jésus qui nous parlent de l'amour du prochain. Aimer le prochain, c'est aller jusqu'au bout. Comme Pauline Jaricot, et comme tant d'autres. C'est pourquoi je vais vous lire la lecture de la lettre de saint Paul de dimanche dernier, pour vous la rappeler. Frères, vous avez appris, ou frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Pour connaître le mystère du Christ, il faut bien en entendre parler, et si on n'encourage pas nos missionnaires, comment les gens l'entendront-ils? Et saint Paul ajoute, ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes de générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Et c'est par l'annonce de l'Évangile auquel a travaillé Pauline Jaricot qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a en Afrique 60 millions ou davantage de catholiques. Et c'est la propagation de la foi qui a soutenu et aidé toutes ces œuvres innombrables qui font jaillir la foi un peu partout.